ce soir, on va changer, pas de testostérone, mais des voix féminines. Pas forcément calmes, mais très recueillies. Ah, c'est pas tout à fait pareil. The Purchaser's Option, c'est-à-dire au choix de l'acquéreur. C'était la voix de la noire américaine Rhiannon Giddens. Elle vient d'avoir 40 ans cette année, mais sa voix semble ancestrale et de fait, d'une certaine façon, elle l'est. Cette musicienne qui n'est pas que chanteuse, hein, elle joue également du banjo et du violon, s'inscrit en effet dans une tradition très très ancienne. Elle évoque dans cette chanson de façon allusive un document historique très ancien puisqu'il remonte à l'année 1797. Il s'agit d'une annonce publiée dans un journal new-yorkais informant le public de la mise en vente, hein, je cite les termes de l'annonce, d'une jeune négresse de 22 ans, de santé et de beauté remarquable, entraînée aux travaux domestiques comme à ceux de la ferme. Elle a un enfant de 9 mois qui sera laissé au choix de l'acquéreur. Fin de citation. Alors, Rhiannon Giddens s'est imaginé dans la tête de cette esclave, dont elle pourrait être la très lointaine descendante, et elle chante ces paroles où se mêlent la révolte et une douloureuse résignation. « J'ai un bébé, mais vais-je le garder? Viendra un jour, je le pleurerai. Mais comment l'aimerais-je moins, ce petit bébé sur ma poitrine? Vous pouvez prendre mon corps, vous pouvez prendre mes os, vous pouvez prendre mon sang, mais vous n'aurez pas mon âme. » Alors cette chanson m'a rappelé une visite que j'ai faite, c'était il y a 2 ans dans la ville de Détroit, au musée de l'histoire africaine-américaine, où plusieurs salles sont consacrées à l'histoire de l'esclavage. Alors il y a des mises en scène absolument saisissantes. On voit par exemple comment les esclaves étaient entassés dans les galères, hein, alignés comme des poulets de batterie. Et puis en bruit de fond, ils ont mis des cris et des gémissements enregistrés qui vous donnent l'impression, non pas de contempler cette réalité ancestrale en spectateur lointain, mais d'être plongé dedans en son cœur et pour ainsi dire d'y étouffer. En tout cas, ce qui est frappant, quand on se promène dans ce musée, dont pratiquement tous les visiteurs sont des Noirs, c'est le recueillement du public. Beaucoup se plantent, ils ferment les yeux, et on a l'impression qu'ils revivent l'expérience de leurs ancêtres, retenant leurs larmes avec difficulté. Alors l'esclavage aux États-Unis, c'est pas une mémoire, c'est pas un souvenir, c'est pas un mémorial, c'est quelque chose qu'on ressent comme une présence, une réalité vivante, actuelle, et on pourrait même dire qu'elle est revécue sans cesse à la moindre occasion. Ça explique en grande partie le retentissement de certains événements récents qui ont eu lieu aux États-Unis. Quelques mots sur Rhiannon Giddens, hein, elle s'est fait connaître au sein d'un trio qui est apparu il y a une bonne dizaine d'années à Durham, hein, c'est en Caroline du Nord, un trio qui existe toujours, qui s'appelle les Carolina Chocolate Drops. C'est un trio où Rhiannon jouait, je vous l'ai dit, du banjo à 4 cordes, hein, et du violon, accompagné par 2 garçons qui, eux, se partagent d'autres instruments traditionnels, notamment une cruche, hein, un pichet en terre dans laquelle on souffle en rythme. Alors on appelait ça, ces formations, des jug bands, hein, des orchestres à la cruche. Et d'ailleurs, ça a étrangement été une des sources, enfin une des composantes en tout cas du rock psychédélique, parce que écoutez You're Gonna Miss Me, c'est un titre des 13th Floor Elevators, et vous entendrez un rythme syncopé qui est interprété par un gars qui souffle à toute allure dans un pichet vide. Et bien oui, ça vient des jug bands. Bref, les Carolina Chocolate Drops interprétaient des chansons traditionnelles de la région dite du Piedmont, ça s'écrit presque comme Piémont, hein, enfin mais rien à voir avec l'Italie du Nord, c'est un plateau qui parcourt le flanc est de la chaîne de la montagne des Appalaches. Alors voilà, si ça vous a touché, Rhiannon Giddens, en solo, donc, chantera dans 2 semaines exactement à Paris, le 23 mars, ce sera un jeudi, au Duc des Lombards, où elle interprétera donc des titres de son nouvel album, Freedom Highway. À présent, une jeune femme, elle, de moins de 30 ans, elle est américaine, tout juste 30 ans, elle est d'ascendance portoricaine, et elle s'appelle Alinda Segarra. Ça fait près de 10 ans qu'elle chante au sein d'un groupe qu'elle a formé très très jeune à la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Hooray for the Riff Raff, pourrait traduire par Hourra pour la racaille. Alors son parcours a été très peu banal, puisque à 15 ans, alors que Alinda vivait dans le Bronx new-yorkais, elle courait voir les concerts punk et hardcore. Et elle a fait un truc bizarre, c'est que le jour de ses 17 ans, en 2004, eh bien, elle s'est barrée, elle a quitté son foyer, et elle a fait comme on faisait jadis en Amérique, hein, il y a 70 ans et même avant, la guitare sur le dos, elle a sauté d'un train de marchandises à l'autre, s'arrêtant là où elle en avait envie. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée, elle a fini par se retrouver à la Nouvelle-Orléans, où elle s'est associée avec un groupe de musiciens itinérants, voilà, tout à fait étrange, il y a un transsexuel d'ailleurs parmi eux. Alors si ce que vous allez entendre vous séduit, sachez que Alinda Segarra et Hooray for the Riff Raff joueront le 27 mars prochain dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. C'est un festival qui a lieu dans toute la France, mais pour l'occasion, donc, elles seront à Paris, au Divan du Monde, et voici la chanson-titre de leur nouvel album, The Navigator. Today I feel weak, but tomorrow I feel a queen. Was raised by the streets. Do you know what that really means? All the hurt I've suffered, it just begins again in a baby girl or a full-grown man. Tomorrow will come. Turning of the sun. Oh.
Very Good Trip, Mishka Assayas sur France Inter.
I'm lost. I'm lost.
Lost, un titre de technopop oriental, hein, avec la voix de la Tunisienne Emel Matlouti. Hein, son nom d'artiste est simplement Emel. Alors Emel, on en a pas mal parlé en 2011. Hein, sa chanson Kelmti Hora, ma parole est libre, hein, je vous en ai parlé il y a une dizaine de jours, était devenue un des hymnes de ce qu'on a appelé le printemps arabe et a fait le tour du monde. Hein, ça a été vu des millions de fois. Alors Emel a fait pas mal de chemin depuis. Celle qui avait créé un groupe de métal à l'université à Tunis, inspiré par Led Zeppelin. D'ailleurs, souvent, on l'ignore en Europe, mais le métal est une des musiques les plus populaires qui soit au Moyen-Orient, à égalité avec le rap. Eh bien, Emel s'est installé en France en 2008 et donc assisté par un réalisateur musical franco-tunisien, Amine Metani. Eh bien, elle a développé sur plusieurs années un projet très ambitieux qui l'a conduite de Paris à New York. Hein, c'est là qu'elle réside en ce moment, en passant par les pays du nord de l'Europe. En effet, elle a enregistré son album qui vient de paraître, entre autres, avec un Islandais, Valgeir Sigurðsson, hein, un collaborateur du groupe bien connu Sigur Rós. Et voilà, donc c'est très très intéressant, très séduisant, et on y reviendra sûrement. Alors voici à présent une autre voix. Alors on peut l'assimiler aussi au Moyen-Orient, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Alors certains d'entre vous, ont peut-être vu l'étrange film de vampire que Jim Jarmusch a tourné à Détroit, c'était il y a quelques années, Only Lovers Left Alive. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une séquence magnifique à la fin où on voyait une chanteuse très recueillie chanter dans une semi-pénombre. Elle avait comme ça une présence sombre et sensuelle où se mêlait glamour et naturel. Elle avait une belle voix grave, hein, comme ça, entre désespoir et extase. Eh bien, il s'agissait de Yasmine Hamdan. C'est une Libanaise qui a suivi un parcours très surprenant. Alors, elle est Libanaise, oui, mais ça fait une dizaine d'années qu'elle ne vit plus à Beyrouth. C'est en effet, bon, c'est quand même là-bas qu'elle avait fait ses débuts musicaux, puisque très jeune, elle avait fondé vers la fin des années 90 Soap Kills, un duo d'électropop avec un jeune DJ et compositeur. Alors, avant ça, elle avait eu une enfance et une adolescence très nomade, puisqu'elle avait suivi son père, un ingénieur dans le civil, qui était passé par Abu Dhabi, le Koweït et puis enfin la Grèce. Donc, c'est pour ça que Yasmine parle à la fois l'arabe, l'anglais et le français, ce qui lui a donné une approche très singulière de la musique, puisque aussi bien elle a été marquée par Radiohead ou PJ Harvey, hein, qu'elle a découvert à la télévision, que par la musique indienne et pakistanaise ou encore la variété égyptienne. Alors, au milieu des années 2000, le français Mirwais, qui venait de collaborer avec Madonna, a réalisé pour Yasmine Hamdan en 2009 un album d'électropop qui s'appelle Arabology, sous le nom de Yas, tout court. Voilà, ça a été un événement, mais enfin, ça n'a pas non plus pris outre mesure. Et en 2014, aidé par Marc Collin, vous savez, c'est l'homme qui a fait l'album Nouvelle Vague, eh bien, Yasmine Hamdan, est allée vers des ambiances beaucoup plus douces. C'était très réussi. Elle revient cette année avec un nouvel album qu'elle a enregistré avec des collaborateurs de Depeche Mode et de Brian Eno. L'album s'appellera Al Jamilat et sortira dans une quinzaine de jours. Un premier titre de Yasmine Hamdan, La Baden, circule déjà.
مفقوس مني وكرس From here, it's a Jerusalem blue in the scar of a subliminal line, and the story repeats as many times as you need it to.
Jerusalem Blue, une balade qui navigue entre jazz et country avec une orchestration un peu flottante. Il s'agissait d'une chanteuse qui, comme Yasmine Hamdan, a des racines libanaises. Elle s'appelle Nadine Khoury. Elle vit à Londres. Hein. C'est la fille de réfugiés libanais qui ont fui, comme beaucoup, la guerre civile à Beyrouth. Nadine chante en s'accompagnant à la guitare depuis pas mal d'années. Celui qui l'a découverte, c'est John Parrish. Hein. C'est le percussionniste et multi-instrumentiste qui collabore avec PJ Harvey depuis ses débuts. On peut même dire que c'est son collaborateur privilégié. En tout cas, c'est le premier professionnel qui a vraiment remarqué, enfin important en tout cas, qui a remarqué la voix de Nadine Khoury. Nadine qui chantait depuis plusieurs années, puis un soir de 2010, timidement, après justement un concert de PJ Harvey, elle a eu l'audace de tendre un CD de ses maquettes à John Parrish au moment où il sortait de scène. Et John Parrish a fait ce que peu de gens font, c'est qu'il a écouté le CD et il a été subjugué par cette voix. Il a pris contact avec elle et lui a juré qu'il ferait quelque chose. Et au bout de plusieurs années, il a tenu parole puisque c'est fait. Et Parrish a enregistré donc ce premier album de Nadine Khoury dans sa ville de Bristol, hein, au sud-ouest de l'Angleterre. Un album qui est sorti il y a quelques semaines et qui s'appelle « The Salted Air ». À présent, une jeune chanteuse et musicienne qui, elle, vient de chez nous, hein, française. On commence à beaucoup, enfin pas mal parler d'elle, et c'est amplement mérité. Elle s'appelle Flora Fishback. Elle se présente comme Fishback tout court, c'est le nom de sa mère. Elle vient de l'Est, hein, Charleville-Mézières. Il y a en elle, enfin dans sa voix, dans son attitude sur scène, une force et une authenticité qui peuvent vous soulever. Elle a chanté dans un groupe punk. C'est pas étonnant quand on voit son sa puissance. Et puis dans une interview qu'elle a publiée, qui a été publiée sur le net, elle cite parmi ses sources d'inspiration des choses plutôt inattendues, le Der Mussolini du duo de Düsseldorf, Deutsche Amerikanische Freundschaft. Ça remonte au début des années 80, une sorte de électro-industrielle extrêmement violente. Mais ça n'empêche pas de citer Bernard Lavillier, dont elle a d'ailleurs repris une chanson, ou Mylène Farmer. Enfin voilà, elle mélange tout, et elle a tout à fait raison, parce que les sectes et les chapelles, c'est vraiment un truc d'autrefois. Fishback est en tournée dans toute la France jusqu'à la fin avril. Alors il y aura, j'espère, une date pas loin de chez vous. Et voici la chanson titre de son premier album. C'est même la chanson qui clôt le disque, À ta merci. C'est un titre au parfum psychédélique avec un petit quelque chose d'oriental.
Tu ne crois qu'en ta gueule, aux formes du linceul, la poussière et le vent, je ne resterai pas seul à regarder les fleurs tout au long du printemps. Mais si je demeure à ta merci, il n'y a pas l'ombre d'un souci. Je tombe quand tu simules tes sans merci. D'ailleurs, je ne te dis pas merci. La honte. Tu joues à la marée, mais n'attends pas le ciel. Je n'ai plus 20 ans. Ces visions dévorantes ressemblent à la mort lente. J'irai plus tard là-bas, crois-moi. Ah, 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 ah. Si je demeure à ta merci, il n'y a pas l'ombre. J'avancerai comme je bois, comme un trou vers le monde, vers le monde, vers le monde. Thank you.
The Thirst, la soif, c'était la voix de Shannon Wright, une musicienne américaine qui est originaire de la ville de Atlanta, hein, en Géorgie. Mais elle a pas mal voyagé. On la connaît bien en France, en particulier parce qu'elle a collaboré en 2004 avec Yann Tiersen. Alors, son nouvel album qui s'appelle Division, est le fruit d'une expérience qui est tout à fait surprenante. Il y a de ça quelques temps, la pianiste Katia Labeck, hein, bien connue, a assisté à un concert que Shannon Wright a donné en Suisse. Alors, la chanteuse était vraiment alors au fond du trou. Elle était à deux doigts d'abandonner la musique et Katia Labeck lui a alors remonté le moral. Lui a dit qu'il fallait s'accrocher, qu'il fallait pas baisser les bras. Et c'était pas des paroles en l'air puisqu'elle lui a proposé de venir enregistrer dans son studio à Rome sur un de ses pianos, un piano Steinway. Ce qu'elle a fait en y mêlant, alors là c'est Shannon Wright qui parle, les sonorités d'un vieux Casio tout pourri, soit une sorte de mini synthétiseur rudimentaire. Et voilà, c'est un très très bel album, celui de Shannon Wright. Alors à présent, une autre voix, c'est celle d'une jeune américaine, elle a moins de 30 ans, on l'a déjà diffusée, hein, elle s'appelle Angel Olsen, on a commencé à parler d'elle il y a quelques années. Alors je résume son parcours en quelques phrases. Enfant adoptée, elle a passé son enfance au cœur du Midwest américain, précisément à St. Louis, la capitale du Missouri. Et là, dès l'âge de 15 ans, eh bien Angel s'est mise à chanter au sein d'un groupe qu'elle a formé dans son lycée, très classique, hein, dans un genre punk, influencé par le style des Ramones, hein, c'est un peu le canon du genre, mais aussi par le groupe californien No Doubt, un groupe entre ska, soul et punk. Peut-être certains se souviennent, c'est celui où la chanteuse Gwen Stefani avait fait ses débuts, c'était il y a une vingtaine d'années. Alors après, Angel Olsen, elle est partie vivre à Chicago, elle a gagné sa vie comme serveuse, mais elle avait une autre ambition, c'était de se lancer comme chanteuse à texte, hein, dans un style folk traditionnel, plutôt dans le genre un peu triste, un peu désespéré. Alors sa première autoproduction est tombée entre les mains de Will Oldham, c'est un musicien qui depuis près de 20 ans publie des disques ou des noms divers et variés, Palace Brothers, Palace Music ou bien Bonnie Prince Billy. En tout cas, Will Oldham a voulu l'aider, il l'a engagé comme choriste, mais bon, pour autant la carrière de Angel Olsen n'a pas démarré. Au bout de quelques temps, elle en a eu marre de vivre dans une grande ville comme Chicago, surtout, enfin l'hiver est très rude, ça lui plaisait pas trop. Alors elle est partie s'installer dans le sud, dans la nature, près de Asheville. C'est une ville qui, pour citer Angel elle-même, est une enclave hippie située dans une région verdoyante de l'état de Caroline du Nord. Voilà, alors c'est là qu'elle a trouvé l'inspiration et la plénitude. Et dans son dernier album, hein, le troisième, My Woman, eh bien Angel Olsen se révèle à la fois classique et moderne. Classique par son style et ses sources, hein, c'est un rock mélodieux, soul des années 60, country rock des années 70, mais elle est très moderne par sa scansion, son énergie et sa sensibilité. Angel Olsen donnera un concert le 6 juin prochain au Trianon à Paris. Et dans ce style, intern, hein, ça veut dire stagiaire, eh bien, elle a quelque chose dans la voix qui peut évoquer Lana Del Rey. Maybe you know that it's been too long. Gone through the motions as you sing your song. Doesn't matter who you are, what you've done. Still gotta wake up and be someone. Still gotta. Another intern with a resume. I'm
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Quelque chose de clairement rétro hein, dans le style de cette chanson Wrong For You. Elle pourrait facilement avoir été composée au début des années 60 hein, dans le sud des États-Unis hein, dans un style entre country et soul. Et puis aussi dans le thème archaïque hein, de l'amour malheureux, de la pauvre fille qui s'accroche à un homme qui n'est pas fait pour elle. Mais la voix de la jeune Molly Burch, hein, B-U-R-C-H, elle n'a rien de spécialement vieillot. C'est une jeune femme, elle a été élevée à Los Angeles par des parents qui travaillent dans le cinéma. Et il se trouve que très jeune, elle a été exposée, enfin c'est elle qui le raconte, aux vieilles comédies musicales. Et c'est voilà, ça, donc ça, c'est peut-être ça qui a incité son goût pour le rétro. En tout cas, elle le revendique sur son site internet. Et c'est ce type de chant qu'elle est partie étudier dans une école qui est située justement à Asheville, hein, cette enclave bohème de Caroline du Nord dont je vous parlais au sujet de la chanteuse qu'on a entendue précédemment, Angel Olsen. Mais enfin, bon, il est arrivé des choses dans la vie de Molly Burch, et c'est ça qui l'a inspirée pour écrire elle-même ses chansons comme celle qu'on a entendue, Wrong For You, un rétro dans la forme, mais assez moderne dans l'interprétation, en tout cas avec quelque chose de théâtral et même, si vous préférez, cinématographique. Molly Burch vient donc de publier son tout premier album, Please Be Mine. Alors tout de suite, une autre voix, la voix d'une jeune femme qui, elle, alors vient d'un tout autre milieu, puisqu'elle vient de la campagne, hein, du Midwest. Elle s'appelle Margot Price, on l'a déjà diffusée deux fois, je crois bien. Elle a publié, il y a quelques mois, son premier album de chansons country, alors au style vraiment extrêmement traditionnel, on pourrait même dire archaïque. archaïque. Il se trouve que c'est Jack White, hein, le fondateur des White Stripes, qui l'a découverte et qui s'est enflammé pour elle. L'album de Margot Price s'appelle Midwest Farmer's Daughter, hein, fille d'un fermier du Midwest. Hein, c'est clairement conforme à la vérité, enfin autobiographique, puisque de fait, ses parents possédaient une ferme dans le nord-ouest de l'Illinois où ils cultivaient le maïs et élevaient un troupeau. Cela dit, la malheureuse, elle n'a pas connu ça, parce que quand elle avait 2 ans, ses parents n'arrivaient pas à s'en sortir, ils ont dû vendre la ferme et le père a dû devenir gardien de prison. Alors à 20 ans, à ce moment-là, Margot a, quelques années plus tard, a lâché ses études de danse et de théâtre et elle est partie tenter sa chance à Nashville. Alors là, elle a eu dans un premier temps un peu de chance, puisqu'elle a rencontré un musicien dont elle est tombée amoureuse, avec qui elle a monté un groupe. Hélas, ce personnage s'est révélé, enfin c'est elle qui le dit, alcoolique et voleur, pas de bol. En plus, la pauvre, elle a perdu un enfant en bas âge, ce qui l'a fait tomber dans une grave dépression. Mais enfin, l'histoire a une chute plutôt heureuse, puisqu'elle est arrivée à enregistrer son album au légendaire studio Sun de Memphis, hein, ceux des débuts de Elvis. Voilà, je cite les débuts de la chanson. « Je perds du poids, je perds le sommeil et toutes les choses que j'arrive pas à garder. Je perds du terrain, je perds du temps, mais si je te perdais toi, alors je perdrais la raison. » Margot Price, « World's Greatest Loser ».
I'm losing weight, I'm losing sleep, and all the things I just can't keep. I'm losing ground, I'm losing time, but if I lost you, I'd lose my mind.
Full of mixture, and he poureth out the same. the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out and shall drink them. But I will declare forever.
Une voix qu'on ne connaît guère en France est celle de Jessie Coulter qu'on vient d'entendre. Originaire de l'Arizona, elle a été une des vedettes les plus populaires de la musique country dans les années 70. D'ailleurs, au début de cette décennie, les années 70, elle a été associée au mouvement qu'on appelait celui des Outlaws, hein, les hors-la-loi de la musique country, c'est-à-dire ceux qui se sont soulevés contre les ordres des maîtres des studios de Nashville qui voulaient les cantonner à des chansons au thème et style conventionnel. Les Outlaws revendiquaient, sur le modèle de Bob Dylan ou de Neil Young, hein, une inspiration authentique et personnelle. Alors ça, c'est de l'histoire ancienne. Il se trouve que Jessie Coulter a été mariée à l'une des grandes figures du mouvement Outlaw, un chanteur qui s'appelait Waylon Jennings. Alors, c'est là que l'histoire devient inattendue. C'est qu'au milieu des années 90, Lenny Kaye, le guitariste de Patti Smith, celui qui collabore avec elle depuis ses débuts, passait du temps dans la maison du couple. Pourquoi ? Parce qu'un éditeur lui avait demandé d'assister Waylon Jennings dans la préparation de son autobiographie. Donc un jour, Lenny Kaye arrive chez le couple et il tombe sur Jessie Coulter dans son salon, assise au piano, en train de chanter quoi ? De chanter un psaume de l'Ancien Testament, un psaume de David. Alors Jessie Coulter, faut le savoir, elle a été élevée dans la foi de l'église pentecôtiste, elle connaît bien sûr tout ça comme sa poche. Alors Lenny Kaye est absolument subjugué par ce qu'il entend et il se jure qu'un jour, il enregistrera Jessie Coulter au piano chantant ses psaumes. Et il parviendra à le faire une dizaine d'années plus tard, quelques années après la mort de Waylon Jennings qui est survenue en 2002. Et voilà, et près de 10 ans après, eh bien il a demandé à des musiciens amis d'orchestrer, de rehausser le chant et le piano de Jessie Coulter, ce qui lui a permis d'achever cet enregistrement qui vient de paraître et qui s'appelle logiquement les psaumes de Psalms. Alors ce qu'on a entendu, c'était le psaume 75, où il est dit, alors je cite la traduction de la Bible de Louis II, « Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. » Et voilà, c'est tout pour ce soir. Il me reste juste le temps de remercier chaleureusement Benjamin Riquet qui a réalisé l'émission, Philippe Duclos à la technique, Valérie Bourg et Zora Ben Smiley, et Romain Couturier à la discothèque de Radio France, et je vous dis à lundi.